Peut-être d'abord quelques mots sur la façon de procéder. Nous sommes en retard sur la série de quatre feuilles. Et je ne m'en plains pas, parce que nous avons mis le temps dans les sujets qui avaient un intérêt prioritaire montré par les questions. Mais ça nous indique qu'il serait bon de nous orienter pour savoir qu'est-ce que nous allons laisser tomber de ce qui était primitivement prévu. Et je propose de laisser effectivement la dernière feuille qui traite d'une matière un peu plus complexe pour rester avec les trois premières, c'est-à-dire la deuxième principalement pour aujourd'hui, plus les questions, et la troisième pour vendredi.
D'ailleurs, le dernier sujet traité, et ceux qui précèdent aussi dans le livre de John Yoder, The Politics of Jesus. Alors, je pense qu'il faut que ceux qui s'intéressent à ce livre en fassent la commande, parce qu'il n'existe qu'en anglais, et il faudra le commander aux États-Unis. On pourra faire une commande groupée, et le prix sera très abordable à ce moment-là, une vingtaine de francs au maximum.
On pourrait aussi noter que dans la sélection de ces quatre sous-sujets, j'ai laissé tomber d'autres qui auraient eu aussi une importance frappante. La sélection était un peu arbitraire, non seulement comme exemple, deux qui auraient pu être le sujet d'une feuille et d'une journée aussi. Le pardon. Généralement, nous n'avons pas de mal à comprendre l'idée du pardon comme un événement entre Dieu et le coupable. Et parfois, dans nos meilleurs moments, nous arrivons même à comprendre le pardon comme un rapport entre nous. Mais plus que nous nous rendons compte, cette idée du pardon a aussi un rapport avec les structures sociales et les relations sociales. Par exemple, dans la proclamation que nous avons vue adoptée par Jésus, quand il citait Ésaïe 61, proclamation de l'année de jubilé, il y avait le pardon des dettes comme partie de ce qui fait partie, ce qui signifie, ce qui marque l'arrivée du Messie. On m'a posé des questions sur la peine de mort. Et il y aurait bien d'autres questions à poser sur les défis qui nous pose aujourd'hui le régime pénitentiaire, un élément très important de ce que peuvent apporter les chrétiens dans le monde politique. C'est que le pardon ne se limite pas à l'intérieur de l'homme et l'intérieur de l'Église, mais c'est une possibilité aussi envers les autres. J'ai omis de cette feuille, ou plutôt j'ai enlevé de la liste dont j'ai tiré les éléments sur cette feuille, sur imiter, suivre, participer, le très grand nombre de textes qui nous disent que le pardon que Dieu nous donne, il faut se demander si c'est une façon traditionnellement évangélique de le formuler, le pardon est conditionnel. Les évangélistes nous disent que le pardon est gratuit. Et c'est vrai sur un plan. Mais cette gratuité a des implications. Dans le Notre Père, il y a une seule demande qui est conditionnelle. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Et je me demande combien content on serait si Dieu nous traitait littéralement selon cette condition quand nous le demandons. C'est aussi la seule demande de notre Père qui est commentée après par Jésus selon le récit de Matthieu. Donc, ça serait un paquet, nous le restons, mais notons qu'il y a une grande portée sociale à cet élément de la vie de l'Église chrétienne. Et un autre, je note parce que Daniel vient de faire allusion, il y a aussi dans le Nouveau Testament une procédure particulière, une façon d'opérer avec le conflit. Si ton frère a péché, c'est avec lui qu'il faut parler. Et ça, c'est bien différent des moyens de ce monde. Mais ça marche aussi dans ce monde. De s'arranger avec une intention de dialogue et d'entente, de réconciliation avec l'intéressé, au lieu d'aller chercher ailleurs des gens de son côté, des alliés, pour s'attaquer à celui qu'on voit comme son adversaire. Je note ces exemples un peu arbitrairement, seulement pour témoigner de la grande variété des éléments du message de Jésus qui ont une portée dans la vie sociale. Il n'y a aucun lieu de limiter strictement à l'Église. Maintenant pour la feuille 2. J'ai noté en fin de matinée hier, et là vous pourrez vérifier dans votre souvenir si il y avait du vrai dans ce que je disais, que l'idée de la croix dans l'usage le plus courant, dans la cure d'âme ou dans la piété protestante, se comprend ou est comprise de deux façons particulières, claires, non sans utilité, mais qui diffèrent du centre du message du Nouveau Testament. D'une part, la croix comme une expérience inter du brisement du moi, et d'autre part, la croix comme une souffrance dont je ne suis pas coupable, mais que j'ai apportée parce que c'est ma place. Ces deux éléments, je les affirme, quant à leur substance, elles ont place, ces choses, dans l'expérience chrétienne. Mais elles nous empêchent de lire le texte, quand Jésus dit que celui qui le suivra aura sa croix à porter, il parle d'autre chose. Tout d'abord, il parle d'autre chose dans le contexte littéral de ce passage de Luc 14 et parallèle. Parce que ces passages, si nous les prenons au moins sur le plan d'un simple récit, décrivent quelque chose qui s'est passé avant la mort de Jésus. Naturellement, les évangiles étaient écrits bien plus tard. Et on peut supposer, si on veut, que l'évangéliste mettait dans la bouche de Jésus des choses dans les formulations, dans les termes que comprenait l'Église plus tard. Mais c'est hasardeux de commencer avec des hypothèses comme ça. Il est plus simple de supposer qu'il y a quelque chose d'historique dans ce que Luc dit, et Luc nous dit que Jésus, avant sa passion, parlait de la croix, donc pas de la sienne, mais de ce que veut dire une croix. Et qu'est-ce que ses disciples pouvaient savoir de ce que veut dire une croix avant la croix de Jésus? Alors il faut chercher le sens de cette référence qu'elle devait avoir avant la punition de Jésus. Alors, qu'est-ce que signifie la croix? C'était la peine normale qu'infligeaient les Romains, pas pour tous les crimes, mais pour l'insurrection. Pour d'autres crimes, il y avait d'autres façons d'exécuter, d'autres façons de mettre à mort aussi. La crucifixion, c'était la peine de ceux qui menaçaient l'ordre civil. Donc, avant que ça ne lui arrive à lui, Jésus dit déjà à ses auditeurs que si eux pèsent ce que ça coûtera de le suivre, c'est ça qu'ils doivent peser. Ils seront vus par le monde comme ceux qui troublent l'ordre. Pas seulement qu'ils auront à quitter la maison, ce qui est l'autre accent très fort dans ce passage, haïr sa famille. Mais ils sont vus par les autorités. Ils risqueront le sort d'être traités comme fauteur de rébellion. La croix du Christ, bien sûr, pour revenons au plus profond, n'était pas comme la croix de la piété protestante, une souffrance inexplicable ou accidentelle, inévitable, c'était sa choix, librement. Il aurait pu l'éviter. Il avait une décision à prendre pour savoir s'il allait suivre ce chemin. Et plus tard, surtout dans les écrits de Pierre et de Jacques, nous le voyons répéter que la seule souffrance qui correspond, qui permet aux croyants de dire qu'ils souffrent avec Christ, c'est la souffrance qui est aussi innocente, c'est-à-dire qui est le prix de l'obéissance, pas la souffrance de maladie et certainement pas la souffrance provoquée par des actions répréhensibles, mais la souffrance qui est le prix de l'obéissance. Si nous avions à interpréter ce message du Nouveau Testament sans les évangiles, il y aurait déjà beaucoup dans ce qui est aligné ici concernant le parallélisme entre la vie du disciple et celle de son Seigneur. Je dis parallélisme comme sujet, comme slogan, comme titre général pour grouper plusieurs façons de l'exprimer. Des fois, pas souvent, on a le verbe imiter. Un autre lieu, il y a le verbe suivre, qui nous donne une image tout à fait littérale, le maître passe devant, le disciple marche dans ses pas. Dans d'autres textes, surtout chez Paul, c'est plutôt l'idée de participer, c'est-à-dire d'avoir part, d'être partie d'eux, d'être membre d'eux. Mais toutes ces différences, toute cette variété de vocabulaire dit la même chose. Nous avons à être dans ce monde comme lui était. Et déjà, il y a une grande richesse dans la variété de façons de l'exprimer que j'ai alignée ici. J'ai ici 9 titres, on aurait pu détailler davantage, on aurait pu grouper un peu. Il y a des différences, de nuances, mais il y a une grande concordance dans la pensée de fond. Je dis, il y aurait déjà beaucoup ici, et qui aurait une pertinence, une portée, un rebondissement social, si on n'avait que les textes des Épîtres. Mais si on le met en rapport avec le récit des Évangiles, si donc on voit que la souffrance de Jésus est le résultat de son engagement, de sa présence sociale, le résultat du fait qu'il groupait des gens autour de lui qui vivaient autrement, le résultat du fait qu'il se refusait de se retirer quand le monde venait pour le détruire, alors ce parallélisme aussi nous entraîne dans sa suite. Et nous avons donc tout le contenu du message de Jésus, son contenu social, devient aussi le contenu de notre vie de disciple, de notre suite. Je crois qu'on utilise en français le terme barbarisme pour un mot qu'on a inventé, suivant les règles de construction, qui convient, mais un mot qui n'existe pas dans la Russe. Le mot serait discipula. Fait d'être disciple, le statut d'être disciple et de vivre en disciple. C'est dommage que ce mot n'existe pas, il existe en espagnol, parce que ce serait un titre général, peut-être un peu plus simple que les autres que j'ai essayé de trouver pour décrire tout ce domaine. Mais le domaine est bien large, le nombre de textes qui parlent dans ce sens est énorme, mais la pensée est bien simple. Notons aussi que cette pensée paraît partout dans le Nouveau Testament. Il y a certaines idées et certains termes qui viennent dans le Nouveau Testament seulement chez un auteur. Les spécialistes peuvent savoir, ça c'est un terme qu'on trouve chez Jean et pas ailleurs. Ou ça c'est un terme qu'on trouve dans l'Épître aux Hébreux et pas ailleurs, ou chez Paul ou chez Pierre. Mais cette pensée ici, nous la rencontrons dans toutes les parties de la littérature du Nouveau Testament. Il n'y a pas un auteur qui le dirait moins que les autres. Les autres fois, ce que j'avais à présenter avait le danger de ne pas être suffisamment clair parce qu'il y avait une certaine complexité dans les termes ou dans la démarche d'approche des textes. Ici, je crois que nous avons un danger dans l'autre sens du ton. Que c'est trop simple. Que la pensée de fond est tellement simple que nous hésitons à croire que ça puisse être vrai et que cela puisse définir notre place comme Église dans le monde. Que comme Jésus est venu pour instaurer en tant que Messie la possibilité d'être dans le monde ce que Dieu veut, l'a fait d'abord dans son corps d'homme, nous sommes appelés à continuer avec lui à le faire dans son corps Église et de faire exactement la même sorte de choses, de servir au lieu de dominer, de pardonner, de partager le pain, de prendre des décisions en commun, de renoncer à la domination, parce que c'est cette nouvelle façon de vivre que lui a rendu possible, d'abord dans sa personne, puis dans le corps de ceux qui le suivent. On pourrait peut-être marquer ou noter qu'il y a deux textes particulièrement qui sont relevés ici, que vous avez touchés dans vos études de Colossiens. Peut-être vous avez noté quelques coïncidences ou quelques rapports sous le numéro 2, « Mourir et vivre avec lui » comme titre général. Vous avez noté dans les études bibliques du matin que cette idée de mourir ou être crucifié avec lui et de ressusciter et vivre avec lui forme tout un grand paragraphe au centre de l'Épître aux Colossiens, la fin du chapitre 2 et le début du chapitre 3e. C'est une des places où le thème participer en sa mort, participer en sa vie est le plus largement répandu. Là, naturellement, dans le texte même, rien n'est dit de la violence, de la mort comme punition, mais sachant l'unité de tous les autres textes, c'est aussi un passage qui nous soutient dans le même sens. L'autre texte, qui est noté ici au numéro 5, est encore plus frappant peut-être le texte le plus fort pour dire ce qu'il dit. C'est un texte qui même provoque un certain gêne dans certains milieux évangéliques où nous prêchons toujours que la croix du Christ suffit. Il a tout fait. Rien ne manque. Eh bien, l'apôtre Paul dit, « Je complète dans ma chair ce qui manquait dans les souffrances de Christ. » Alors, ça nous gêne un peu sur la superficie de notre façon traditionnelle de prêcher, naturellement. Il n'y a pas de profonde contradiction, mais il y a les explications qu'il faut. Là, ce que la croix du Christ a rendu possible et rendu réel devant Dieu ne sera réel parmi les hommes que si l'apôtre, parce qu'il le dit de lui-même d'abord, que si l'Église continue à vivre la foi, à mettre cette foi à la portée des hommes, à travers l'obéissance de l'Église dans une souffrance conforme à la sienne. Naturellement, tout cela déborde de loin la question de la forme sociale, du témoignage de l'Église. Mais rien de cela peut exclure que la présence de l'Église dans le monde ait cette portée qui aussi doit correspondre à ce que Jésus a fait et ce qu'il a conduit au rejet par les hommes dont la foi est la mise en pratique ou la mise à l'exécution. Il n'y a pas de, naturellement de questions qui étaient posées dans le premier paquet de questions dans le carton. Pour répondre à ceci, je ne sais pas si cette présentation provoque déjà des réactions que nous devrions prendre maintenant, mais ce serait peut-être au moins un lieu pour couper un peu, pour voir si nous fermons ce chapitre ou s'il y a lieu de dire davantage.
Tu ne réponds pas d'abord à ça, non? Il vaut mieux regarder ça pour la fin.
Je pensais garder ça pour la fin.
Bien, alors, s'il y a des questions, c'est le moment de les poser.
Mais qui?
Est-ce que c'est en relation avec cette pensée que Dieu mettra sa volonté en nous pour continuer sur la voie tracée par le Christ?
Oui, c'est certainement, il faut une nouvelle volonté. Mais il ne suffit pas de dire que la volonté a changé. Il y a aussi le contenu de ce que nous voulons faire, que cette nouvelle volonté nous rend capable de faire et nous dispose à faire. Donc, il y a, je pense que il peut arriver que l'on comprenne la régénération ou l'aide du Saint-Esprit seulement sur le plan de nous renforcer l'élan pour faire le bien que nous savons toujours être le bien. Il faut dire plus que ça. Nous recevons aussi une nouvelle matière et la nouvelle volonté nous poussera, nous rendra capable de nous comporter autrement, pas seulement parce que maintenant nous aurons la motivation de faire ce que nous savions, mais parce que nous savons aussi des nouvelles choses.
Oui, la croix du Christ a été le résultat du choix délibéré de Jésus-Christ, mais comment aurait-il pu éviter cette mort qui était annoncée par les prophètes?
J'ai essayé souvent, mais je ne suis pas bien arrivé souvent à donner d'autres choix à la prédestination. C'est-à-dire la question, qu'est-ce qui se serait passé si ce qui était prédit ne s'était pas passé? Ce n'est pas seulement ma modestie, c'est que dans la logique même des choses, il y a une limite à l'utilité de notre façon de poser des questions. Nous posons souvent les questions. Mais sinon, qu'est-ce qui arriverait? La question hypothétique a sa valeur pour éclairer les choses, pour peser les alternatives, pour voir comment les choses s'engrènent logiquement, ou s'ils n'avaient pas besoin de s'engrainer logiquement. Mais on a beaucoup de mal, c'est sur le plan philosophique, c'est-à-dire dans le sens des mots même, à savoir comment répondre à une question comme ça si Jésus avait décidé de désobéir à son Père? Qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce qu'il aurait été Jésus? Est-ce qu'il aurait été le Fils de son Père s'il avait choisi de désobéir? Ça nous entraîne dans des hypothèses qui deviennent de plus en plus compliquées. Alors, je pense qu'il est utile de les soulever pour nous rendre compte qu'elles sont compliquées. Et pour nous éviter de penser, et il y a des gens qui le pensent avec de grandes convictions, que Jésus n'a pas décidé. Le texte, naturellement, nous dit qu'il était en lutte, qu'il priait, qu'il demandait même au Père un autre chemin, que cette coupe passe. Mais il y a des personnes, ou des traditions théologiques, dont la conviction concernant la divinité de Jésus fait dire que c'était une mise en scène pour nous, pour que nous pensions en termes de décision, mais en réalité il n'a jamais rien décidé parce que c'était le Fils de Dieu et Dieu n'a pas de décision à prendre. Il sait toujours, depuis toujours, tout. Alors pourquoi décider quelque chose? Alors le récit de la tentation au début dans le désert et le récit de la tentation à la fin dans le jardin, ça c'est pour nous, c'est une... C'est du théâtre, dans un bon sens. Je crois trop à l'incarnation, c'est-à-dire à la réalité de l'humanité de Jésus-Christ, pour prendre ce chemin-là. Alors quand le texte me dit qu'il avait à lutter, je crois qu'il était autant homme que nous et que ces luttes étaient véritables. Mais ça nous laisse devant un puzzle logique. Comment est-ce que le Fils de Dieu pouvait avoir à lutter? Et est-ce qu'il aurait pu décider autrement que ce qui était juste? Ou bien s'il avait décidé autrement, est-ce que cette autre décision aurait été juste aussi parce que c'est lui qui l'aurait prise? Et je ne sais pas, on tourne en rond. Mais la question, c'est utile de nous pousser aux limites de nos capacités de raisonner par l'hypothèse.
Pourquoi le caractère personnel de cette affirmation « j'achète dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ » ?
Il y a un courant qu'on trouverait si on analysait de plus près plusieurs de ces passages de Paul, où il se met un peu entre nous et Christ, « Soyez mes imitateurs comme je suis son imitateur. » C'est-à-dire, il se donne au modèle d'une façon subordonnée, comme Jésus nous donne en modèle. Donc, c'est un de ces lieux où il parle de lui-même parce que c'est de son ministère qu'il est en train de parler dans le passage, mais il le dit d'une façon comme ailleurs, où ce qu'il dit pour soi doit valoir comme exemple pour les autres. Mais pas tout à fait, pas absolument, parce qu'il est aussi très conscient du fait que son titre d'apôtre est unique. Et donc, c'est surtout lui qui a à faire ça. Mais parce que lui a à faire ça, nous autres, nous sommes aussi entraînés dans cette même obéissance. Mais il le dit d'abord parce qu'il est en train de parler de son ministère, et là et ailleurs aussi, 2 Corinthiens en long et en large, il parle des souffrances de son ministère comme étant une partie essentielle de sa fidélité.
Colossiens 24, est-ce que l'interprétation dans le sens social est une, comment disais-tu, est une interprétation ou est-ce que c'est une explication? Tu expliques la différence aussi. C'est ça. Donc, est-ce que c'est une simple interprétation ou est-ce que c'est une façon obligatoire de comprendre les choses? Et si oui, il faut développer alors l'explication de cette question.
Pour changer la formule de la question, est-ce que voir ceci dans ce que l'apôtre dit de lui-même est la seule façon de lire ce texte? Je ne crois pas qu'il y ait un texte dans le Nouveau Testament, au moins pas de texte important, pour laquelle il y a une seule lecture. Ça serait tout simple, trop simple. Mais c'est de toute façon une lecture très courante, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, de voir dans l'expression de Paul une affirmation très claire et consciente de ce parallélisme entre sa souffrance comme apôtre, à sa suite la souffrance de l'Église, persécuté pour son obéissance, et devant lui la souffrance de la croix de Christ, comme étant trois étages de la même édifice, du même bâtiment, de la même réalité. Alors, si la croix de Christ, sa souffrance pour l'Église, dans sa mise à mort, à la moindre dimension sociale, je ne dis pas que ça doit être uniquement ou primordialement social, tout le reste ne peut que suivre, je pense. Et de toute façon, la souffrance de l'Église, c'est-à-dire sa persécution par les autorités, ou par les voisins, même si ce n'était pas toujours les autorités civiles, ça c'est forcément une dimension sociale. Qu'est-ce que ça veut dire quand l'Église est persécutée? C'est sa place dans une société qui ne la tolère pas parce que les chrétiens n'agissent pas comme les autres. Alors, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de débats parmi les interprètes du texte pour affirmer que cela fait partie de son message. Il y aurait d'autres, surtout je crois dans les grandes traditions catholiques, qui donneraient encore un sens plus profond à la souffrance de l'apostolat, et là, on mettrait en doute l'idée que le missionnaire, l'apôtre, participe à la foi d'une façon qui est aussi une mérite pour l'Église. Ça, ça se développerait dans l'idée catholique du Moyen-Âge, du mérite, de l'obéissance de ceux qui obéissent vraiment et profondément. Et là, je ne crois pas que le texte nous dit ça. Mais on voit que le côté tout littéral, l'apôtre Paul a du mal parce qu'il est représentant de Jésus-Christ. Il a du mal avec les autorités. Alors c'est la prolongation de la souffrance de Jésus.
La croix est l'aboutissement d'un choix de Jésus et la croix est le châtiment infligé aux insurgés. Or, l'Église appelle traditionnellement à la soumission aux autorités. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction?
Il y a tout de suite, sur la superficie des choses, une certaine tension à étudier. Je ne crois pas que ce soit une contradiction. Mais ça exigerait une présentation d'une certaine complexité pour voir comment les deux choses vont ensemble. La soumission aux autorités de Romains 13 ou d'autres textes parallèles en 1 Pierre et Timothée n'est jamais une soumission sans qualification. Ce n'est pas une obéissance sans limite. La raison pour laquelle les apôtres invitent le lecteur à se soumettre, et d'habitude le verbe soumettre est bien distinct du verbe obéir, ça a à faire avec la question féminine aussi, se subordonner est encore plus correct comme traduction. Quand les apôtres invitent leur lecteur à accepter d'être subordonné, c'est-à-dire ne pas être par-dessus, c'est parce qu'il y avait une tentation, surtout devant Rome, il y avait une tentation de rébellion, de désobéissance. Encore une la tentation zélote, de la rébellion juste. On acceptait de ne pas faire une révolution violente dans l'Église primitive, comme dans Jésus. Mais ce n'était pas une acceptation aveugle et sans limite de tout ce que l'autorité voulait. Celui qui accepte d'être mis à mort accepte l'autorité civile. Il laisse marcher sur lui ses peines. Si on parle de l'objection de conscience cet après-midi, on aura le même problème. On paie le prix de son insoumission en étant encore soumis. C'est-à-dire, on ne tue pas le tyran, on ne se sauve même pas, on accepte le prix de sa présence dans une société où on n'obéit pas entièrement. Et dans ce sens-là, je pense que j'ai indiqué seulement le chemin qui pourrait nous aider vers une explication de la conciliation de ces deux courants. Mais vous avez raison de voir qu'il y a quelque chose à concilier. L'application superficielle et traditionnelle de Romains 13 a été « Fais ce qu'on te dit et ne pose pas de questions. » Donc l'État est de droit divin. Et devant ça, il y a bien une tension. Dans le fait que Jésus avertit ses disciples qu'ils seront en tension avec les autorités.
Bon, je pense que tout le monde a compris la question, enfin au moins entendu la question. Ah oui, il faut la répéter, c'est un peu compliqué, hein.
Ouais, je propose de le garder plus tard parce que ce n'est pas une question directement dans
D'accord,
la matière
on la
et de le mettre dans la liste des autres.
C'est une manière de répondre aussi, n'est-ce pas?
Il y a...
Bon, une question en rapport.
Peut-être ça suffirait avec les...
Bon, on va garder un quart d'heure pour les répondre à ces questions-là, ça suffira?
On n'aura jamais fini, mais...
Oui, mais est-ce que ça te suffit pour répondre?
Je pense pour les trois que j'ai...
Bon, alors, on va encore donner la parole à Evelyne, là-bas.
Comment prendre l'image de l'Église
Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Comment comprendre cela?
C'est une autre formule pour dire la même chose que nous avons vu en Luc 14. Il faut haïr père et mère, etc. Ou même la parole de la croix. Ils n'apportent pas leur tranquillité. Ils apportent une mise en question qui provoquera des conflits. Mais ce n'est pas l'épée dans le sens littéral de tuer les gens, parce que même cette épée, c'est dans la famille. C'est l'expression imagée pour la séparation, le conflit qui surgit quand il y a des gens qui le suivent et d'autres qui ne le suivent pas. Et ceux qui le suivent doivent accepter ce conflit. Ça cadrerait avec ce qu'on aurait dit sur la violence ou la non-violence. Il n'a pas question d'éviter le conflit. Il est question de savoir sur quel côté, de quel conflit on se pose. Et le message de Jésus, c'était certainement était un message de conflit. Et celui qui met en question la justice de l'ordre social existant, ou qui soumet à des conditions son obéissance aux autorités civiles, il aura toujours des conflits. Et ça cadre tout à fait dans ce que je disais.
Mais haïr père et mère, qu'est-ce que ça veut dire?
Hein?
Haïr père et mère.
Jésus ne pesait pas toujours tellement ses mots. C'est-à-dire, j'aurai l'occasion d'y revenir, le langage hébraïque, la façon méditerranéenne de s'exprimer, utilise beaucoup plus librement que nous autres, avec notre civilisation affectée par la pensée latine et la pensée teutonique, des façons exagérées de dire, pour qu'on comprenne bien, quelque chose qui ne veut pas être pris dans le sens littéral. Mais Jésus dit, il ne faut pas que la loyauté envers père et mère, etc., prime dans ta décision. Et si on quitte sa famille pour suivre Jésus, la famille le comprendra bien, comme une malveillance, comme une haine envers les membres de la famille qui restent en arrière. Ce n'est pas une haine dans le sens psychologique, de malveillance, de mauvaise disposition, mais sur le plan des valeurs, si on met sa famille en deuxième lieu. Et ça, c'est bien grave, dans n'importe quelle société traditionnelle.
Bien, on va passer maintenant aux trois questions, ou quatre questions, je ne sais pas, écrites. Je vous rappelle qu'il y a la boîte à votre disposition et les questions qui n'ont pas pu être prises en considération peuvent atterrir là-dedans où elles sont étudiées.
J'ai analysé d'abord seulement pour ce matin les questions qui étaient déjà dans la boîte ce matin. Maintenant, il y a de nouveau un autre paquet et nous aurons à les combiner pour cet après-midi et peut-être en partie pour vendredi. Et je pense seulement celles qui ont le plus proche rapport avec ce que nous avons déjà traité, en gardant pour cet après-midi les autres, surtout concernant l'idée d'une vue générale de la participation politique, où cadrerait aussi cette dernière question concernant les hommes d'État qui sont des voleurs. J'ai utilisé assez légèrement, facilement, comme si nous le comprenions, le terme « violence » est une des questions dit avec raison qu'il y aurait lieu de définir. Il y a une grande variété dans l'usage des termes dans ce domaine. Il y a des gens, par exemple, qui distinguent entre force et violence, distinguant sur la base de l'autorité. Si moi je tue mon prochain, ça c'est la violence. Mais si un soldat le fait sur l'ordre du gouvernement, ce n'est pas de la violence, c'est de la force. Ça c'est une façon de trancher dans les définitions. Une autre façon de prendre les mêmes mots, on le trouve aussi dans la littérature, serait de dire que la violence est ce qui détruit, qui viole la dignité d'un être, et que la force, ce sont les autres façons de pousser, de contribuer à comment vont les choses, de mettre pression, mais en deçà d'une destruction de la personne ou la dignité de la personne qu'on essaie de pousser. Donc, je peux utiliser la force quand je retiens un fou ou quand j'oblige un enfant à se mettre à table, mais je ne peux pas tuer par une force. Je cite ces définitions seulement pour noter qu'il y a une problématique de définition. Encore plus, parce qu'il y a des gens qui rejettent la violence physique, militaire, mais qui aiment le mot. L'archevêque catholique de Recife, en Brésil, a écrit un livre où le titre utilise violence dans un sens positif. Ça veut dire l'agressivité, la volonté décidée, le décider de faire changer les choses, le propos de ne pas accepter l'injustice. Il aime le mot violence pour ça. Mais ce n'est pas qu'il veut une révolution où les têtes tombent. Aussi, le prieur de l'abbé du monastère protestant de Thésée a un livre qui utilise le terme violence dans ce sens. Donc, nous aurions beaucoup de mal à nous entendre avec tous ceux qui écrivent et s'expriment avec une définition précise. Il faudra que je me limite à celle qui me paraît plus utilisable. Et ça serait d'axer la définition de la violence que je refuse, et je l'utiliserai donc toujours dans un sens négatif, sur la dignité de ce qu'on détruit. C'est-à-dire, violence vient, c'est un substantif qui vient d'un verbe, et le verbe violer a toujours un objet. On viole une loi, une promesse, une personne, une dignité. Il y a toujours un objet. Et cet objet, s'il est nié dans sa dignité, que ce soit une promesse, une personne, une loi, ça c'est la violence. Et la violence envers la personne, donc c'est l'action qui nie la dignité de cette personne. On peut naturellement le faire en la tuant, mais on peut aussi le faire sans le tuer. Jésus en parle dans Matthieu 5. Des paroles de rejet et de mépris sont déjà, dans un sens intérieur, des éléments de la même attitude répréhensible que si on lui prenait la vie. Donc ce qui est en cause, c'est la dignité de l'autre personne. Et puisque nous parlons de conflit social, particulièrement la dignité de l'adversaire ou l'amour de l'ennemi. La violence est l'action qui s'autorise à détruire l'ennemi ou à le vouloir. La non-violence, c'est toute action qui affirme la dignité de l'adversaire. Avec cette définition, je peux jeter la lumière progressivement sur les décisions qu'on a à prendre, par exemple, concernant les actions pratiques de conflit social. Les gens posaient des questions de syndicalisme ou d'autres sortes de participation dans le conflit social. On peut trouver avec ce critère la dignité de l'autre. Un certain guide. Ça ne résout pas tout de suite, mais ça nous aide à voir ce qui est en cause quand on parle de violence, de la rejeter ou de vouloir l'éviter. Encore un élément de définition quand on parle des actions non violentes, c'est que ceux qui préconisent ou qui organisent des actions spécifiques de protestation ou de changement social et qui l'appellent non violente, dans la tradition de Martin Luther King, de Gandhi ou d'autres, n'ont jamais prétendu qu'il n'y aurait pas de violence dans la suite de leurs actions. Ils ont seulement dit qu'ils allaient le souffrir et pas l'infliger. On dit souvent, On ne peut pas éviter toute violence, et que même ceux qui cherchent à monter une protestation sociale pour une bonne cause vont provoquer des réactions qui peuvent être violentes, bien sûr, mais ça fait partie du plan. Il y a même des gens qui disent que Jésus ne devait pas être contre la violence parce qu'il s'est fait tuer. Il a laissé agir contre lui la violence de l'État romain. Et bien sûr, il l'a souffert, il n'a pas infligé. Et dans ce sens-là aussi, les techniques de protestation sociale, qui sont qualifiées souvent de non-violentes, ne promettent pas la tranquillité. Ils sont plutôt une façon de manier cette épée dont parlait Jésus dans le texte qui était cité, mais où le prix, la souffrance qui résulte de ce conflit est portée par nous et pas pour nos adversaires. Mais je ne voudrais pas tellement mettre l'accent sur les actions spécifiques non violentes de la sorte de King ou de Gandhi, comme si je voulais me faire avocat de beaucoup de cette sorte de choses au nom de l'Église, ou même la participation de chrétiens beaucoup. Il y a des situations assez limitées où ce genre de choses est utile et nécessaire. Il ne faut pas le prendre en modèle typique pour la participation du chrétien dans la vie sociale. Il y a bien d'autres façons aussi de participer sans violence et utilement dans la société. Est-ce que ça provoque des questions de clarification?
Oui, il... Oh, non, bon, vas-y.
Il y avait une question que j'aurais bien posée, c'est à propos du verset de Luc 16:16. Dès lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour s'en pour y entrer. Oui.
C'est un des passages que...
Chacun use de violence pour entrer au royaume de Dieu.
Luc 16:16. La difficulté des interprètes devant ce texte, c'est qu'on ne sait pas si Jésus le dit comme une description de ceux qui rejettent, c'est-à-dire les zélotes, ou il le dit comme une approbation de la réaction normale à sa présence et son message. Alors, et dans le deuxième cas, est-ce que ça voudrait dire violence dans le sens que je viens de définir, ou est-ce que ça serait violence dans le sens de Rodésus et Helder Camara, tout sacrifier, tout donner et se mettre entièrement dans la cause. Donc c'est un texte qu'il est très difficile d'utiliser à l'appui d'une conclusion ou l'autre, parce que l'interprétation même est très contestée.
Maurice Gardiol signale aussi l'existence du livre de Jacques Ellul « Contre les violents » est un essai d'approche biblique de la violence pour lecteurs avertis, je suppose. Critique. Donc, « Contre les violents » de Jacques Ellul. Est-ce que tu le connais, ce livre ?
Je ne connais pas le titre, mais souvent en anglais ils ont d'autres titres, oui. Et souvent ils paraissent avec en anglais avant le français. Je connais un livre avec un autre titre qui pourrait bien être le même et qui est bien utile.
Oui, monsieur Chardot. Est-ce que vous voudriez bien vous approcher au micro, s'il vous plaît, ce sera plus clair pour tout le monde.
Bon, je voudrais suggérer des éléments de réponse pour cette prise du pouvoir par la violence. Effectivement, ce verset de Luc 14 est difficile à comprendre. Et il semble que le Seigneur affirme à ce moment-là qu'on puisse prendre le royaume par la violence. Et je pense que pour une ligne d'interprétation, emploierait la parabole de la vigne, où les ouvriers disent « Venez, tuons-le et possédons son héritage ». Ce qui veut dire que en opposant à la loi de Dieu et à la loi de non-violence qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire se soumettre, obéir, parcourir tout ce chemin pour que Dieu enfin donne le royaume, les hommes ont voulu le prendre de force en tuant le Fils. Et je pense que derrière cette idée de violence, il y a l'idée d'opposer à la loi de Dieu, à la loi de la justice qui apparaît dans la loi du talion, qui est une loi juste parce que c'est une loi d'échange, d'égal à égal, c'est un fondement de la justice. On oppose à cela la loi de la domination du sujet traitant l'autre sujet comme un objet. Et je pense qu'il est peut-être plus utile d'employer ces catégories psychologiques, je m'excuse de défendre cet aspect-là, plutôt que des catégories philosophiques du genre dignité de la personne. Parce que dans cette optique d'un sujet et d'un objet, nous sommes dans une relation vivante entre les personnes. Et nous échappons par l'affirmation que l'autre est sujet et non objet, nous échappons précisément à cette prise du pouvoir que nous trouvons dans Adam, qui veut prendre à Dieu la domination pour lui. Autrement dit, affirmer sa règle et sa loi en face de Dieu et contre lui.
Pourquoi dans ce cas-là est-il dit que les violences s'empareront du royaume des cieux?
Il n'est pas dit qu'ils l'auront.
Il n'est pas dit qu'ils l'auront.
Non, mais il est dit quand même que ce sont les violences qui entreront dans le royaume des cieux.
Les violences s'emparent du royaume de Dieu.
Plus de violences pour essayer d'y entrer, je pense, pour y entrer.
Mais il y a un autre, c'est pas nécessaire.
Bon, écoutez, je crois que vous en discuterez à part, parce que l'heure avance. Si on veut encore continuer.
Je crois que nous avons ici une leçon dans la pratique de la difficulté de ranger les questions uniquement sur le niveau des définitions de termes avec les traductions françaises ou européennes de termes bibliques sans remonter aux termes et sans avoir le temps et le loisir de classer les variations et les nuances de sens. Je ne crois pas qu'il y ait dans le message de Jésus une tension profonde à ce point, mais plutôt qu'il y a une variété d'expressions et de traductions dans les mots que nous utilisons pour le rendre. Mais je dois maintenant, dans les 5 minutes qui nous restent, identifier seulement un autre jeu de questions, je ne sais pas si je finirai, mais qui cadre bien ensemble. La même personne a posé 2 questions qui se complémentent. Peut-être sont assez nettement formulées que je lirai simplement. Il y a 2 positions qui pourraient suivre de ce que nous avons vu sur le message de Jésus-Christ. Une pure et une engagée. Ce sont mes termes, pas les termes de la personne, mais ça vous oriente quand je le lis. Une option, les seules règles sociales que j'accepte sont celles de l'Évangile, sermon sur la montagne. Je refuse toute autre conception de la société. Pour ne pas faire de compromis, je dois donc refuser par principe de nombreux postes dans la société, d'où retrait, en tout cas partiel, des chrétiens. Deuxième option, il est vrai que le message social de Jésus est radical, mais comme par mon corps, je fais partie partiellement de l'ancienne humanité, je ne peux me désolidariser des autres hommes et je dois m'engager en mettant en avant la loi de Moïse, donc en me retirant un peu du niveau de Jésus, je dois m'engager dans une action sociale et politique, non pour les racheter, mais pour les pécheurs. Je crois que nous sommes aidés par cette formulation de 2 possibilités qui auraient une certaine logique, pas pour choisir entre les deux, mais pour justement mettre en question la formulation. Et elle est bien formulée pour signifier ce que je mets en doute. Nous raisonnons souvent comme cela. Et c'est pas nous qui l'inventons. Notre civilisation le fait depuis Constantin. Parce que depuis Constantin, on a affirmé d'une part qu'il faut faire marcher le monde. Et si nous ne le faisons pas, d'autres le feront beaucoup moins bien que nous. Et que il y a quand même un message de Jésus qu'il faut respecter quelque part, mais ça nous sortirait de la réalité sociale. Je mets en doute la nécessité de cette dualité, de ce choix. Je le mets en doute en partie parce que dans le Nouveau Testament, nous ne voyons rien qui trahisse une telle distinction. Mais aussi parce que dans l'application pratique, même des gens qui pensent comme ça, ils ne pensent pas vraiment comme ça. Ceux qui pensent qu'il faut s'engager ne disent jamais vraiment qu'il faut s'engager absolument et sans limite. La théologie luthérienne, qui est parmi les plus positives en faveur d'une prise en charge des structures sociales, dit quand même qu'il ne faut pas commettre de péché au nom de cet engagement. C'est-à-dire, on doit faire ce qu'on peut sans péché. Par exemple, article 16 de la Confession d'Augsbourg. Et ceux qui se retirent de certaines fonctions, ou qui simplement ne se font pas élire, ou n'arrivent pas dans certaines fonctions, ne se retirent pas, ou généralement pas, par principe, mais ils acceptent simplement d'être mis de côté. L'idée de retrait est le plus typique, la façon dont on parle, mais je ne crois pas qu'il s'agit réellement de se retirer, mais simplement de ne pas s'avancer, de ne pas chercher à dominer. Si on suit Jésus et il ne cherche pas à dominer, ça ne veut pas dire qu'on se retire. Ça veut dire qu'on aura des responsabilités, mais qu'on ne va pas se battre pour les responsabilités les plus fortes, les plus grandes. Mais ce n'est pas une posture de repli. Donc je suis reconnaissant pour la clarté de cette opposition, représentant une façon de penser pour dire que j'estime que le Nouveau Testament nous interdit d'utiliser cette dualité. Parce que tout chrétien fidèle limitera son engagement et tout chrétien fidèle sera engagé. Le contenu politique de la présence de Jésus était toujours engagé, mais engagé autrement. Il n'est pas un choix entre s'engager et se retirer, mais entre s'engager d'une façon, cherchant la puissance, et s'engager d'une autre façon, cherchant à servir. C'est non seulement une répétition de ce que je disais avant, mais dans les termes que la question rendait possible. Maintenant, l'autre côté de la même feuille est aussi utile, nous propose une dualité d'une autre sorte, qu'il y aurait deux cercles. Dans l'Église, il y a une vie et une obéissance de chrétiens, Nouvelle Alliance, la loi de Christ, et un autre cercle, le monde, la loi de Moïse. Est-ce qu'on peut appliquer deux lois différentes selon que ce soit dans l'Église ou dans le monde? Par exemple, le divorce. L'Ancien Testament le permet, le Nouveau Testament l'exclut. Donc on pourrait l'accepter dans l'ordre civil et l'exclure dans l'Église, ou la peine de mort, Romains 13. J'admets quelque chose d'utile dans cette dualité, mais j'hésite à accepter que ce soit une dualité nette et stable, comme si Dieu voulait que les pécheurs commettent ces péchés-là, et que ce sont seulement les chrétiens qui ne devraient pas commettre ces péchés-là. Je pense qu'il est plus réaliste de voir s'il y a une dualité, parce qu'il y a un monde qui n'écoute pas, et il y a l'Église qui veut écouter, au moins s'est engagée à écouter, et donc il y a une différence dans les connaissances, dans les engagements, et on ne peut pas s'attendre à ce que le monde applique nos critères. Donc nous admettons que nos critères ne s'appliquent pas directement au monde, nous n'interdisons pas tout péché par l'ordre civil, et le puritanisme qui essayait de défendre civilement tout péché a fait beaucoup de mal à la santé sociale. Mais l'alternative n'est pas de proposer que Dieu a deux niveaux. Il y a une façon dont Dieu veut que le monde reste tombé, et une autre façon dont il veut que les quelques sauvés restent sauvés. Et les deux compartiments, on aurait simplement demandé maintenant dans quel casier est-ce que je suis en train d'agir pour savoir ce que je dois faire, et aurait une dualité dans notre engagement aussi, que dans la vie civile on applique la peine de mort et dans la vie religieuse on pardonne à ses ennemis. C'est trop simple, mais la dualité est à respecter, mais d'une autre façon qu'il faudra voir plus en longueur.